Vous écoutez France Musique.
Merci Rodolphe Brunet-Boulmier. On vous retrouve un petit peu plus tard pour d'autres dépêche notes. Aujourd'hui, Tony Williams avec Laurent Bataille. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette 39e émission du Matin des musiciens du mardi consacré au jazz. La semaine dernière, nous évoquions l'un des grands batteurs du jazz moderne, Elvin Jones. Aujourd'hui, nous allons continuer à observer l'évolution du jazz en nous plaçant du point de vue de la batterie, puisque nous accueillons de nouveau Laurent Bataille pour évoquer un autre batteur essentiel de cette épopée depuis les années 60, Tony Williams. Mais là où le style et le vocabulaire d'Elvin Jones pouvaient encore se résumer à une manière quasiment univoque tout au long de sa carrière, marquée par un séjour historique au sein du quartet de John Coltrane, le monde de Tony Williams, qui appartient à la génération suivante, est sans doute plus complexe à résumer à une seule manière. Depuis ses débuts aux côtés de Jackie McLean et de Sam Rivers, alors qu'il n'était encore qu'un adolescent surdoué, jusqu'à ses derniers groupes ancrés dans une certaine tradition du jazz, Tony Williams a fait évoluer son jeu en intégrant, telle une éponge, l'ensemble des révolutions stylistiques de son temps quand il ne les a pas précédées. Artisan d'une libération du langage au sein même du second quintet de Miles Davis que nous avons évoqué dans cette émission, Tony Williams s'est vite révélé un chef d'orchestre iconoclaste, pratiquant la fusion la plus brûlante avec John McLaughlin et Larry Young, tout en continuant à dialoguer avec les chercheurs les plus en vue du free jazz. Artisan d'un décloisonnement entre la batterie jazz héritée du swing et les nouveaux courants binaires, Tony Williams fit aussi fructifier son imagination débridée dans une virtuosité créatrice en libérant les différents éléments de son instrument pour créer un langage polyrythmique d'une vertigineuse efficacité, aussi bien dans ses interventions qu'au service des autres solistes. C'est donc un véritable novateur qui nous occupe ce matin. Bonjour Laurent Bataille.
Bonjour Arnaud Merlin.
Alors Tony Williams, Elvin Jones, ce n'est pas du tout la même esthétique.
Deux révolutionnaires, deux révolutions, mais c'est très très différent. Je veux dire, c'est presque physique. Quand l'un est une masse et joue avec une largeur qu'on a évoquée la semaine dernière, Tony est petit, musclé, nerveux, et son jeu, bien entendu, reflète exactement ce tempérament qu'il a. C'est un peu un méchant, Tony Williams, et il joue comme ça. C'est beaucoup plus serré, nous allons voir, avec beaucoup de choses novatrices qui l'amènent au monde de la batterie.
Ce qui est frappant, c'est que ces deux révolutions sont presque concomitantes. Elvin Jones chez Coltrane, c'est pratiquement en même temps, à deux ans près, que Tony Williams chez Miles Davis.
Ah oui, c'était encore l'époque où il y avait des créateurs, il pleuvait des créateurs, et il se trouve qu'ils ont été au bon endroit, au bon moment. C'est-à-dire chez Miles et chez Coltrane, on aurait pu imaginer pire. Thank you.
Ce n'est pas tout à fait le premier enregistrement de Tony Williams. Il est déjà extrêmement âgé ici, puisqu'il a 19 ans et quelques mois. C'est en mars 1965. Tony Williams à la batterie fait la paire avec Ron Carter, le contrebassiste qu'il côtoie au sein du quintet de Miles Davis. Le pianiste, c'est McCoy Tyner, le pianiste alors au sein du quartet de John Coltrane, aux côtés d'Elvin Jones, que nous évoquions tout à l'heure, Laurent Bataille. Il y avait également Fally Hubbard à la trompette, l'altiste James Spalding, et puis le leader de cette séance, le saxophoniste ténor Wayne Shorter, qui signait cette composition Angola. C'était donc en 1965, finalement. Tony Williams a déjà trouvé tout son style.
Il est en pleine maturité, il est libre, totalement libre. Il a déjà imposé, on va dire, son style. Ça n'a pas été forcément facile au départ, mais sans doute plus qu'Alvin, parce que tout de suite, il y a des leaders qui vont le prendre sous leur aile, en fait.
Tony Williams est né en décembre 1945. Il est originaire de Chicago, mais il a grandi à Boston dans un milieu de musiciens professionnels. Son père était saxophoniste. Et très jeune, il va étudier la batterie avec un musicien qui s'appelle Alan Dawson. Alan Dawson, c'est un musicien pour musiciens assez connu dans le milieu des musiciens, mais totalement inconnu du public.
Très méconnu du public parce qu'il a préféré l'enseignement dès 1957. Je crois qu'il est resté chez lui pour enseigner au Berklee College of Music et à Boston. Il faut savoir qu'avec un Roy, il y avait énormément de batteurs et lui avait un style magnifique, une gestuelle magnifique et un style vraiment très particulier d'enseignement. Donc il a cultivé ça, mais on peut l'entendre avec Rollins, on l'entend avec Jackie Bayard,
avec Dave Brubeck plus tard aussi.
Voilà, avec Dave Brubeck. Et voilà, il a juste choisi de ne pas tourner à travers le monde, mais c'est un pédagogue magnifique qui va être un révélateur au fil des ans, révélateur donc de Tony Williams, on va en parler un peu ici, mais ensuite de Terry Lynn Carrington, de tout un tas de batteurs qui étudieront avec lui et révéleront leur potentiel parce qu'il avait une méthode d'apprentissage vraiment exceptionnelle.
Alan Dawson, ici, échange avec le saxophoniste Sonny Rollins. C'était lors d'un concert au Danemark en 1965. Concert à l'automne 1965 au Festival de Jazz de Copenhague, le trio de Sonny Rollins avec NHOP, Nils-Henning Gosted-Pedersen à la contrebasse et le batteur Alan Dawson. Est-ce que c'est vraiment le père spirituel de Tony Williams ou le style est différent, Laurent Bataille?
Il a pris des choses de son professeur, c'est évident. On va voir qu'il en a pris à d'autres. Mais là, lorsque j'entends ça, et j'engage les auditeurs à aller voir la vidéo, à acheter le DVD.
Oui, c'est un DVD voilà. De la collection Jazz Icons. On en trouve aussi des extraits sur la toile.
Et de voir à quel point ce batteur, d'abord, est très mélodique et à quel point il enlève la cymbale Charleston. Il y a des mimiques et des gimmicks qu'on entend ensuite chez Tony Williams. Donc la paternité en revient bien entendu à Alan Dawson. Et bon, après, le génie de Tony Williams, on va le voir, va
rajouter au-delà,
de l'air et tout ce qu'il faut pour faire ce truc génial qu'on entendra.
Alan Dawson appartenait bien sûr à la génération précédente. Il était né en 1929. Tony Williams, né en 1945. Il étudie avec Alan Dawson entre l'âge de 8 ans et l'âge de 10 ans. Il est vraiment tout gamin. On dit qu'à 12 ans, Tony Williams a fait le bœuf avec le groupe d'un de ses maîtres, Art Blakey. Mmh. L'année suivante, la même chose, mais avec le groupe de Max Roach. Et à l'âge de 13 ans, il est repéré par le saxophoniste Sam Rivers. Ouais. Et c'est un autre saxophoniste qui va le décider à partir pour New York à la fin de l'année 1962. Il a donc tout juste 17 ans. C'est Jackie McLean.
Thank you.
C'était le 11 février 1963, le groupe du saxophoniste alto Jackie McLean avec le trompettiste Donald Byrd, au piano le jeune Herbie Hancock, à la contrebasse Butch Warren et Tony Williams qui vient tout juste d'arriver à New York 2 mois plus tôt. On voit qu'il sait parfaitement faire le boulot ici dans un contexte très swing, très décontracté.
Ouais, il est super décontracté. Il y a toujours cette petite nervosité. Il a cette manière de se placer qui est toujours... pas autoritaire, mais toujours là, sharp, en anglais, très aiguisé, en fait. Et il joue à deux temps au début du thème, mais sans avoir les tics.
Comme le bassiste, d'ailleurs.
Comme le bassiste, bien sûr. Toute la section rythmique joue à deux temps. Mais il ne marque pas la charleston sur le deuxième et quatrième temps. Il joue juste la cymbale avec des blanches. Et c'est super relax, tout est magnifique. Et il se sert de ces deux cymbales charleston pour faire des couleurs, en fait. Et ça, c'est très nouveau. C'est vraiment un élément qu'il va apporter.
Il a 17 ans, tout le monde parle de ce jeune prodige qui arrive de Boston à New York et ça va être bientôt la révolution. Il va entrer dans le groupe de Miles Davis, d'ailleurs en compagnie du pianiste Herbie Hancock et former cette section rythmique magique avec le contrebassiste Ron Carter. Mais Miles Davis a mis longtemps à constituer son nouveau quintet. Le saxophoniste Wayne Shorter ne viendra que 2 ans plus tard. Et pour cette section rythmique, il a longtemps hésité. Il avait essayé en quelque sorte le batteur Frank Butler et le pianiste Victor Feldman au long de séances d'enregistrement en avril 1963, juste à la même période en Californie. Il va reprendre les mêmes morceaux, mais avec ses nouveaux musiciens, Tony Williams et Herbie Hancock, avec Ron Carter, 1 mois plus tard à New York, ce qui nous permet de comparer,
C'est très évocateur.
Sur les mêmes thèmes.
Tout à fait, sur les mêmes thèmes, on va entendre l'importance, je dis ça, un petit clin d'œil aux solistes. Bien sûr que les solistes sont très importants, mais la section rythmique, et en l'occurrence celle de Miles a fortiori, va vraiment... transformer la musique, et là c'est très évocateur.
Alors on va prendre 2 exemples, un thème de Victor Feldman qui s'intitule Joshua, tout d'abord enregistré en avril 1963 à Los Angeles avec Victor Feldman au piano et Frank Butler à la batterie, et puis ensuite on écoutera la même chose avec Herbie Hancock au piano et Tony Williams à la batterie 1 mois plus tard. deux versions de Joshua, une composition de Victor Feldman, la première en avril 1963 avec le compositeur au piano et le batteur Frank Butler, la seconde un mois plus tard à New York en mai 1963 avec Herbie Hancock au piano et Tony Williams à la batterie. Et entre les deux, il y a à chaque fois le même pilier, Laurent Bataille.
Voilà,
c'est Ron
rendre,
Carter à la contrebasse.
Voilà, bon, on aime les deux, on aime la première version.
Alors, le tempo est plus rapide dans la deuxième, voilà. Mais il n'y a pas que ça comme différence.
Voilà, les deux versions fonctionnent magnifiquement. Ron Carter fait bien sûr le lien, ça swing magnifiquement dans les deux versions. Dans la deuxième, il y a une révolution, tout simplement. C'est-à-dire que les voicings d'Herbie Hancock, le stimulant qu'est Tony Williams, c'est un genre de Guronzan, quoi, Tony Williams. C'est-à-dire que vous le prenez, puis bon, voilà, vous savez jamais ce qui peut vous arriver. C'est comme si vous aviez pris trois Guronzan, quoi.
Il est... Pour ne pas dire autre chose.
Voilà. Mais moi, je suis très poli, moi. Je suis très correct. Donc, en l'occurrence, voilà, c'est un stimulant. En l'occurrence, d'ailleurs, il ne se drogue pas du tout. Il est juste comme ça, naturellement. C'est son génie qui fait que, bon, ça va stimuler Miles et lui donner envie de redonner vie à ce deuxième quintette.
Deuxième exemple, avec les mêmes musiciens, toujours en avril 1963, avec Vic Feldman au piano, Frank Butler à la batterie, et puis un mois plus tard, avec Herbie Hancock et Tony Williams, cette fois sur une composition co-signée par Vic Feldman et Miles Davis, ça s'appelle « Seven Steps to Heaven », et là, vous allez voir, il y a encore un changement très important. Thank you. Deux versions de nouveau, cette fois-ci de Seven Steps to Heaven, enregistrées en avril et en mai 1963. Mmh. La première fois avec Frank Butler, qui jouait tout d'abord au ballet, et puis ensuite de manière très droite.
Très droite, il joue toutes les noires à la cymbale, ça swing énormément, il y a toujours Ron Carter qui est là, encore une fois. Et le batteur dans Frank Butler, qui est de la West Coast, joue toutes les noires à la cymbale de manière très dynamique et très belle, le son est magnifique, mais on entend ding, 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 comme ça, et il ne se passe pas grand-chose, c'est ce qu'on appelle jouer droit.
Quelque chose de très cool, de très égal aussi.
Exactement.
Et évidemment, avec Tony Williams et Herbie Hancock, il se passe tout autre chose.
Voilà, arrivent les accidents. Moi, je pourrais faire une comparaison avec la peinture, c'est du cubisme. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'il y a un cadre évident. Il y a une forme, c'est pas du tout déstructuré au point de lâcher la forme ni le tempo, loin de là. Mais par contre, il y a des accidents, il y a une perspective différente et des couleurs qui sont totalement différentes. Des accidents, il provoque et il réagit.
Pendant 6 années, Tony Williams va jouer ce rôle de trublion au sein du second quintet, comme on l'appelle, de Miles Davis. On en parlait il y a quelques semaines dans cette émission avec Franck Bergerot pour une émission sur ce second quintet de Miles Davis. Mais parallèlement, Tony Williams va mener sa propre carrière en se mettant au service de tous les musiciens les plus en vue, en tout cas dans ce qu'on appelle le monde libertaire. Il est assez proche de ce qu'on appelle le free jazz, l'avant-garde.
Voilà. Il adorait les musiciens avant-garde, il le dit. Il dit ce que j'adore dans les musiciens avant-garde, c'est que d'abord, ils jouent dans le tempo, mais ils ne se retournent pas vers lui pour se plaindre de quelque intervention que ce soit. Ils acceptent toutes les interventions de la batterie et c'est ça que Tony va aimer chez les Sam Rivers, tout un tas de musiciens comme Andrew Hill, etc., qui vont le stimuler. Voilà, il aime ça et il y plonge, quoi.
On l'entend ici varier les modes d'accompagnement derrière le soliste, en l'occurrence ici le tromboniste Graham Moncourt. Tony Williams ici à la batterie avec le bassiste Buck Crenshaw, le vibraphoniste Bobby Hutcherson et le tromboniste Graham Moncourt. Mmh. On l'entend ici, force de proposition Tony Williams.
Force de proposition. Alors là, je pense qu'il ne faut pas oublier l'influence de Roy Haynes à ce niveau-là. On entend énormément le genre de drive qu'on a évoqué, le drive, c'est-à-dire la manière qu'il a de conduire l'orchestre avec sa cymbale. On a évoqué Roy Haynes ici ensemble, Arnaud, et je pense que Roy Haynes était bostonien. Il est bien sûr beaucoup plus âgé que Tony. Et là, on sent évidemment l'influence de Roy Haynes.
Ce qui veut dire que Tony Williams est toujours un petit peu en avant sur le temps ou pas forcément
C'est pas qu'il est en avant, c'est toujours un placement. En fait, ça va accélérer effectivement avec Tony, les tempos, surtout quand il est jeune, accélère pas mal. Mais on s'en fiche, avec Art Blakey, ça accélère, avec Art Taylor, ça accélère, d'autres batteurs. Mais en l'occurrence, il y a ce placement effectivement assez nerveux qui tire effectivement l'orchestre tout le temps, qui stimule tout le temps l'orchestre. Et Roy Haynes, avec un langage un peu différent, mais il y avait quand même ça chez Roy Haynes. Dans la tonalité de la caisse claire, on entend ça, la manière d'utiliser ou de ne pas utiliser la Charleston. Il y a une filiation qui est quand même assez évidente.
Une grande liberté dans les propositions, oui. dans l'accompagnement, oui. une grande liberté aussi dans la façon d'envisager différents tempi. C'est ce que l'on entend ici sur un enregistrement réalisé l'année suivante sous le nom du pianiste Andrew Hill, avec en particulier à la clarinette basse un certain Eric Dolphy. Durham à la trompette, Eric Dolphy à la clarinette basse, Joe Henderson au saxophone ténor, Andrew Hill au piano, Richard Davis à la contrebasse en 1964. Qui d'autre que Tony Williams aurait pu tenir la batterie dans un tel orchestre, Laurent Bataille?
Il l'a stimulé de ce genre d'enregistrement, évidemment, parce qu'il était prêt à tout. Et on voit que, bon là, effectivement, il y a un changement de tempo assez clair et de style, parce que ça passe dans une sorte de truc un peu latin. Mais tout d'un coup, au sein d'un même morceau, il pouvait tout d'un coup n'utiliser que la caisse claire pour faire une marche pendant quatre mesures. Mmh. Et ces prises de position, de parole, comme ça, c'est cette manière qu'il avait de, non pas d'imposer, mais voilà, de déstabiliser peut-être ce à quoi on s'attend, faisait partie vraiment de son génie et de sa manière de faire.
Nous sommes en 1964, il est donc toujours parallèlement au sein du quintet de Miles Davis. Et pour le label Blue Note, Tony Williams participe à un nombre très important d'enregistrements, notamment un aux côtés de son premier mentor, le saxophoniste Sam Rivers. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va l'entendre dans une ballade.
Voilà. Alors, au ballet, il peut être très très fin, Tony Williams. Et là, on l'entend au ballet, il a une manière assez spécifique de jouer des ballets. Et après, à la fin du thème, j'engage les auditeurs à écouter le son de la cymbale. Il va laisser de l'espace dans cette cymbale et on pourra parler de la cymbale après, mais déjà, écoutez.
Jackie Bayard au piano, Ron Carter à la contrebasse, Tony Williams à la batterie, auprès du saxophoniste Sam Rivers, dans ce thème Béatrice, l'une des compositions les plus célèbres de Sam Rivers. Tony Williams au ballet, c'est peut-être un petit peu loin de l'image qu'on a de Tony Williams.
Il fera de très belles choses avec Hank Jones, notamment au ballet, avec Herbie, aussi au ballet quand il reviendra, notamment sur le disque où il y a Third Plane. De toute manière, il est formidable au ballet. Mais évidemment, qu'en tant que créateur d'événements, quelque part. Il crée des événements au sein du morceau. Les ballets sont un peu légers, donc bien sûr qu'il préférera les baguettes. Mais il sait magnifiquement jouer des ballets. Des ballets qui sont très, très difficiles à maîtriser, mais dont Alan Dawson était friand parce qu'il faisait faire tous les rudiments normalement qui sont exécutables aux baguettes avec un rebond évident. Il les faisait faire au ballet à ses élèves, et donc c'est du boulot, quoi. Donc ça représente une technique énorme.
On n'a pas encore évoqué le rôle de Tony Williams comme soliste. C'est le cas ici, sur ce disque, enregistré sous le nom de Herbie Hancock, en juin 1964. On ne va pas écouter en entier la composition, simplement le solo de Tony Williams. Thank you. One Finger Snap, le solo de Tony Williams qui vient refermer cet enregistrement de Herbie Hancock en juin 1964 avec Freddie Hubbard au cornet, Ron Carter à la contrebasse, Herbie Hancock bien sûr au piano et Tony Williams à la batterie. Tony Williams, soliste, Laurent Bataille.
Oui, et d'ailleurs, bon, pour la petite anecdote, sur le CD, il y a deux prises du même morceau, donc deux solos différents. On retrouve la même façon de faire de Tony Williams, qui laisse pas mal d'espace et à la fois, qui est, comme je disais tout à l'heure, très incisif dans ses débits, ce qui est étonnant. Il a une technique énorme, je viens de le dire aussi. Il enchaîne des roulements et ce qu'on appelle des frisés, que je démontrerai tout à l'heure, entre sa caisse claire, son tom médium, son tom basse, en insérant dans des débits donc assez complexes tout d'un coup, deux ou trois coups de Charleston qu'il joue au pied gauche, deux ou trois coups de grosse caisse qui viennent s'insérer comme ça dans des débits qui sont très difficiles à maîtriser. Mais ce n'est pas la difficulté qui l'attire, c'est juste ce nouveau langage très polyrythmique. Alors, on a vu qu'Elvin fait ça à sa manière, mais de façon beaucoup plus large. Et lui, c'est très rapide et assez serré. Et avec ce son de caisse claire toujours très, encore une fois, je le répète, incisif, il tranche tout, Tony.
On retrouve Tony Williams aussi dans des enregistrements encore plus libres, encore plus inspirés par ce que l'on va appeler le free jazz, aux côtés du passeur qui a été Eric Dolphy. On l'entendait tout à l'heure à la clarinette basse, le voici au saxophone alto, aux côtés du vibraphoniste Bobby Hutcherson, du bassiste Richard Davis. C'est tout simplement l'enregistrement Out to Lunch. On l'entend ici se faire succéder en quelque sorte une marche et un accompagnement beaucoup plus libre. Out to Lunch, enregistré en février 1964 sous le nom du saxophoniste alto Eric Dolphy, avec ici Freddie Hubbard à la trompette, Bobby Hutcherson au vibraphone, Richard Davis à la contrebasse et bien sûr Tony Williams à la batterie. Laurent Bataille, vous avez retrouvé votre tabouret, vous êtes installé devant votre Gretsch ici au studio 119 à Radio France pour le Matin des musiciens sur France Musique. Alors comme la semaine dernière, vous nous avez montré un petit peu les éléments du style d'Elvin Jones, cette fois-ci c'est Tony Williams. Est-ce que vous avez réglé votre batterie différemment ?
J'ai changé de cymbale, j'ai raccordé la batterie, j'ai changé de casse claire. Je remercie d'ailleurs mon collègue Philippe Soira qui m'a prêté ce matin une caisse claire qui est vraiment la caisse claire qu'utilisait Tony Williams. Donc c'est important, on va dans le détail hein, ici Arnaud pour essayer de retranscrire le plus fidèlement possible
les
éléments
musique, du... vous savez,
hein, tout à fait. Les éléments sonores de Tony Williams. Donc j'ai accordé la batterie, alors pas à la note près hein, parce que c'était pas toujours pareil, mais il y a une tonalité de la batterie qui correspond à Tony Williams, mais nous ne l'aurons pas, c'est lui qui fait le son.
Alors quelles sont les caractéristiques du jeu de Tony Williams? C'est la grosse caisse, ce sont les cymbales, c'est la caisse claire. Comment il utilise ces différents éléments peut-être très différemment d'Elvin Jones?
Alors justement, Elvin Jones qui disait une chose très belle d'ailleurs, qui disait que la batterie n'est qu'un seul instrument et qui n'a pas changé tout au long de sa carrière. Je sais pas si on l'a dit la semaine dernière, il n'a pas changé de son, Elvin. En fait, sur 40 ans de carrière, il a gardé le même son, le même style, etc. Alors que Tony Williams ne va pas arrêter d'aller de l'avant. Il y aura des constantes. Ce qui caractérise son jeu, je l'ai dit tout à l'heure, c'est une technique énorme de main, de pied, et un discours qui est ponctué d'espace, de couleurs, et il va inventer des choses. Alors déjà, juste pour que l'auditeur s'y retrouve, on va expliquer ce que c'est qu'un frisé, par exemple, parce que c'est une caractéristique très importante du jeu de Tony Williams. Un frisé, c'est un coup de chaque main. Alors après, tout dépend à quelle vitesse on le fait. Alors lui, ça va très très vite. Donc droite, gauche, droite, avec chaque baguette. Dès qu'on accélère, ça s'assimile bien entendu à un genre de roulement, sauf que le roulement, c'est deux coups par baguette, Arnaud. C'est-à-dire que c'est une technique différente, ça donne un effet sonore différent, bien entendu. Voici ce que ça donne. Droite, droite, gauche, gauche, droite, droite, gauche, gauche, etc. Alors, ce que j'ai fait à la fin, c'était ce qu'on appelle un buzz. Les percussionnistes classiques s'en servent souvent, c'est-à-dire que c'est un roulement écrasé, beaucoup plus fin. C'est un peu considéré comme quelque chose qui est souvent interprété en crescendo, c'est-à-dire qu'on part du bord de la caisse claire et on va vers le centre. Et j'ai fini par ce fameux rimshot qu'on avait déjà évoqué avec Roy Haynes, c'est-à-dire que c'est la baguette qui frappe à la fois la peau et le cercle, comme ceci. Et Tony est très très friand de ce type de jeu. Il va ponctuer ses coups et ses accents avec ce rimshot. Alors ensuite, évidemment, il n'y a pas que la caisse claire. La caisse claire est un peu l'instrument hérité du tambour, bien entendu. Après, on a déjà évoqué ici les cymbales Charleston. Joué pour un droitier avec le pied gauche. Et Tony Williams, au lieu d'asséner le tempo en jouant le deuxième et quatrième temps avec la Charleston, il va s'en servir comme couleur, donc voilà ce que ça donne. Donc il va l'utiliser soit avec le pied en laissant les cymbales résonner, soit avec la main. Donc grosse révolution de ce côté-là, c'est-à-dire qu'il ne va plus considérer que les cymbales Charleston servent à ponctuer le rythme avec la cymbale, mais c'est un élément à part qui vient de temps en temps l'aider à colorer en fait son jeu. Ensuite, il y a la cymbale crash qu'on a également évoquée ici. Alors lui, il va par exemple se distinguer en la tapant seul. Avant, les batteurs vont mettre la grosse caisse. Et Roy Haynes faisait ça aussi. C'est-à-dire, au lieu de faire un gros coup de grosse caisse avec un gros coup de cymbale, on va entendre ceci. L'insère au sein de son discours, mais ne ponctue pas forcément la cymbale crash avec la grosse caisse. Alors ensuite, il est bien entendu les tomes, voilà. Alors les tomes avec un son un peu plus, on va dire, à la fois grave que d'autres et aiguë. C'est assez étonnant. Il y a de la longueur de notes, mais il y a surtout un peu de sécheresse dans tout son jeu. Sécheresse pourquoi ? Comme il est rapide, il a besoin de pas trop de résonance. Donc il ne faut pas que les tomes résonnent trop, à l'inverse d'autres batteurs qui vont peut-être les laisser plus résonner. Donc un jeu de grosse caisse, bien évidemment, comme on l'a vu, assez nerveux. Il utilisait par exemple un frisé en grosse caisse très souvent, comme ceci. Il insérait la grosse caisse, comme on l'a vu, dans des débits. Ou la Charleston. Mais ce qui est le plus important chez Tony, c'est la cymbale ride. Alors là, pour vous, Arnaud, j'ai amené une grosse cymbale. Il faut savoir que la cymbale ride de Tony Williams, c'est carrément le Graal pour les batteurs depuis des années. Les batteurs ont cherché à trouver cette cymbale magnifique qu'il utilise dans Nefertiti, qu'il utilise dans Béatrice, on l'a entendu tout à l'heure, c'est fabuleux. Alors bien sûr, il y a son toucher, hein, ça c'est un savoir-faire qu'on ne peut pas inventer, il faut savoir taper une cymbale. Et ensuite, il y a l'instrument lui-même. Alors voilà, je me suis fait faire une cymbale en Turquie, à Istanbul, et d'ailleurs la cymbale porte cette marque. Une cymbale pour essayer d'avoir la complexité des harmoniques, des overtones, comme on dit en anglais. Et bien sûr, c'est impossible de recréer ce son magique qu'avait cette cymbale de l'époque que Jimmy Cobb avait donné d'ailleurs à Tony Williams. C'est une cymbale cassée. Donc voilà ce que ça donne. Mais en tout cas, il drivait tout l'orchestre avec sa cymbale. Et il va se battre avec d'autres batteurs de l'époque, se battre intellectuellement, bien entendu, en disant, voilà, moi, je ne marque plus du tout le tempo avec les pieds, c'est-à-dire avec la grosse caisse, comme on l'a vu dans d'autres émissions, c'est-à-dire la grosse caisse marquait le premier, deuxième, troisième et quatrième temps et la Charleston le deuxième et le quatre, comme ça. On l'a déjà vu. Mais lui, il va dire non, c'est fini, moi je joue la cymbale et le soliste, s'il n'est pas content, eh bien, il se débrouille. Mais le tempo est dans la cymbale, comme ceci. Avec, comme on l'a vu, au sein du même tempo, parfois des équivalences entre les noirs. C'est-à-dire qu'on part sur une base assez simple. Et il va doubler de temps en temps. Voilà. Un jeu nerveux, très différent d'Elvin Jones, un peu plus serré dans le ding-a-ding, et une couleur de cymbale magnifique que l'on peut à la fois cracher, tout en ayant la précision du ping du ding-a-ding, qui est si importante pour le swing.
Alors en bataille, il y a une chose importante aussi dans le jeu de Tony Williams, c'est la manière dont on va évoluer petit à petit de ce qu'on appelle le ternaire vers le binaire, c'est-à-dire du swing vers ce qu'on va davantage trouver dans le jazz rock ou la fusion.
Quand je dis que l'interprétation de sa cymbale est plus serrée, en fait, les auditeurs qui connaissent la différence entre un triolet et une double croche comprendront, ou même une triple croche. Tony pense toujours le swing à la triple croche pratiquement. C'est pour ça qu'au lieu d'entendre ding ding a ding ding a ding, comme ça on entend plus ding ding a ding ding a ding, c'est serré. Donc en fait, ça va l'amener à jouer de plus en plus croche égale. C'est-à-dire que les tempos où il va être le plus à l'aise, ça va être des tempos où la cymbale ne s'assimile plus à du ternaire mais à du binaire en fait.
Oui, parce que quand on dit ternaire dans le jazz, cela veut dire que les deux croches d'un même temps ne sont pas égales. C'est ça que ça
ne sont pas égales. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait un demi-soupir entre les deux croches qui fait qu'on enlèverait la croche du milieu du triolet et donc ça donne ding 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 ding. Alors que là, on va entendre ding 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 ding. Et donc, en général, plus le tempo augmente, moins il y a cet effet ternaire qui peut se ressentir, mais Tony va en plus développer ça à tous les tempos, c'est-à-dire que on va voir qu'il est très friand, quelque part, du rythme rock, faut bien le dire. Tony va devenir rocker, va aimer le rock et va vouloir insuffler au sein du jazz qu'il interprète de plus en plus des rythmiques qui sont égales, avec des croches égales, c'est-à-dire ce qu'on appelle ici en France le binaire.
Cette évolution des croches ternaires vers les croches binaires, on l'entend évidemment en particulier au sein du groupe de Miles Davis, par exemple sur cette composition co-signée avec Ron Carter, 81. « Le début de 81, le quintet de Miles Davis en janvier 1965. Laurent Bataille, vous êtes resté votre tabouret de batterie. On entend bien ici ce découpage binaire des croches.
Oui, c'est-à-dire que bon, la composition, bien sûr, aide à ça. Là, on est dans un tempo lent. Et donc, la Charleston est sur tous les temps. 2, 3, 4, 1, 2, etc. Et du coup, à la cymbale, il va marquer 1 et 2 et 3 et 4. Avec toujours cette propension à vouloir doubler un peu le tempo, à être nerveux comme ça et stimulant.
D'autant qu'à l'époque, Laurent Bataille, certains thèmes peuvent se prêter à un découpage binaire ou un découpage ternaire. C'est particulièrement intéressant sur Freedom Jazz Dance, qui est joué en binaire, mais dans l'introduction,
Tony Williams fait des triolets, joue fait bel et bien des triolets. C'est une partie assez intéressante d'ailleurs.
Le début de Freedom Jazz Dance, enregistré en octobre 1966 par le quintet de Miles Davis, avec bien sûr Tony Williams à la batterie. L'année suivante, au sein du disque Nefertiti, Tony Williams aura la part belle avec, c'est pratiquement un solo de batterie.
C'est Nefertiti, un solo de batterie.
On l'a déjà écouté dans cette émission, donc on ne va pas y revenir. Parallèlement, depuis les années 1964-65, Tony Williams, bien sûr, joue avec d'autres musiciens, mais il enregistre aussi sous son nom, chez Blue Note, avec quelques camarades choisis comme Sam Rivers au saxophone ténor et Wayne Shorter. Les deux se retrouvent sur cet enregistrement avec au milieu un nouveau venu, Gary Peacock à la contrebasse. Thank you. Extras, une composition de Tony Williams, le soliste était Wayne Shorter. Sam Rivers participe également à l'enregistrement et le contrebassiste, c'est Gary Peacock, un contrebassiste très repéré à l'époque sur la scène du free jazz. Nous étions en août 1965. Un peu plus tard, Tony Williams va quitter le groupe de Miles Davis et enregistrer sous son nom dans un contexte tout à fait différent, cette fois-ci avec la guitare électrique et l'orgue respectivement de John McLaughlin et de Larry Young. On va retrouver la même énergie, mais un style musical très différent, plus influencé par le rock.
Il va aimer toutes ces rythmiques et la place que prend la batterie. Alors c'est étonnant parce qu'il va en influencer énormément par la suite des batteurs de rock et il va créer ce qu'on appelle la fusion à partir de cet orchestre et cette manière de jouer. Il va vraiment créer la musique fusion.
Emergency, une composition de Tony Williams. Nous sommes en mai 1969. Tony Williams, batteur et leader, avec John McLaughlin à la guitare, Larry Young à l'orgue. Laurent Bataille, le son a changé ici.
Le son a totalement changé. Alors, on va essayer de démontrer ça. Il change de peau, je veux dire. C'est-à-dire que...
Vous parlez de la batterie. Hein.
Voilà, je parle de la batterie, c'est pas Michael Jackson. Donc, il change de peau. C'est-à-dire que les fabricants proposent des produits nouveaux, justement, pour s'adapter à la frappe des rockers. Et Tony Williams est friand de cela. Donc, pour cette intro là, qu'on vient d'entendre, après, ça part en swing. Ouais. C'est assez étonnant, mais l'intro est très, très rock. Quoi, les
alors, ces peaux, elles sont en quoi? Elles sont en plastique?
Alors, ce sont des peaux en plastique, ouais. Mais ça existait déjà avant les peaux en plastique. Mais c'est surtout que ce sont des peaux transparentes, assez épaisses, avec un rond noir au milieu qui est scotché.
Ah oui, je vois ce que vous voulez dire. Voilà, je vois l'image.
Voilà, ce qui mate le son, en fait. Et John Bonham utilisait ça avec Led Zeppelin, quand même.
Est-ce qu'on peut donner un exemple? Vous avez encore vos anciennes peaux installées.
Tout à
et
fait.
Puis, on va écouter après avec les nouvelles.
Ça va s'entendre. Tout
merci, Laurent.
Dans les années 60, on a le son que j'ai utilisé jusqu'à maintenant, c'est-à-dire ça.
Donc là, c'est des peaux jazz classiques.
Les peaux jazz, permatones, blanches, sablées, comme on dit. Mm-hmm. Alors, j'utilise que la caisse claire pour des raisons pratiques. Que la caisse claire et le tom médium. J'ai pas de peau pour la grosse caisse. Ça aurait été un peu compliqué de monter ça pour toute la batterie. Mais juste sur la caisse claire et le tom médium. Là, je l'ai montré. Donc, voici maintenant ce que ça donne avec les peaux CS transparentes avec un rond noir. Tony Williams dira avant, je jouais avec des aiguilles à tricoter. Donc, il va prendre des grosses baguettes pour jouer bien, bien rock. Voilà ce que ça donne.
Merci Laurent Bataille pour cette démonstration, je crois, tout à fait parlante du changement de peau opéré par Tony Williams à la fin des années 60, début des années 70. Des années 70 qu'il va parcourir à la tête de différents groupes qu'il intitule « Lifetime ». We'll be right back. Ça s'appelle Protocosmos, c'est une composition du pianiste Alan Pasqua ici au sein du Lifetime de Tony Williams avec Alan Osworth à la guitare, Tony Newton à la basse et Tony Williams, batteur toujours évidemment, mais avec son gros son.
Et voilà, il a ce côté un peu égocentrique, donc il veut que la batterie sonne, donc il a changé de batterie, il a changé de peau, il a changé de batterie, il a des fûts beaucoup plus gros, il a une grosse caisse de 24, bon, 24 pouces c'est gros.
Oui, il y a le gros son là.
Ah, il a vraiment un gros son, c'est du rock. Quand je disais tout à l'heure qu'il va créer la batterie fusion, c'est-à-dire qu'énormément de batteurs derrière lui vont ignorer pratiquement ce qui s'est passé chez Miles, par contre ça va être leur point de départ pour créer tout le langage fusion, donc des Vinnie Colaiuta actuellement, le batteur de
Billy
Sting,
Cobham à l'époque,
Billy Cobham, etc.
Peter Erskine un peu
voilà.
plus tard.
Et tous les batteurs qui vont rentrer dans cette veine-là vont prendre ça comme point de départ pour eux, c'est le point zéro de l'évolution de la batterie.
Et ce qui est stupéfiant, c'est qu'à l'époque, nous sommes en juillet 1975, il n'a pas 30 ans. Et les 20 dernières années, on va dire à peu près de la fin des années 70 jusqu'à sa disparition, il va revenir d'une certaine manière à la tradition du jazz, voilà. Mais tout en conservant ce son énorme.
Voilà, ce son énorme. Et il dira que pour lui, c'était pas parfait comme il jouait avant. C'est-à-dire qu'il était, voilà, techniquement, ça allait pas. C'est quelqu'un qui faisait de la muscu, qui voulait que tout soit parfait.
Très perfectionniste.
Voilà, ouais. Et puis voilà, très perfectionniste et qui s'est mis à la composition. Il a beaucoup étudié la composition. Il a pondu de beaux thèmes d'ailleurs. Et par contre, au niveau du jeu de batterie, bon voilà, c'est très musclé, c'est du bebop musclé, on va dire.
À la fin des années 70, avec ses anciens compères du groupe de Miles Davis, en l'occurrence le saxophoniste Wayne Shorter, le pianiste Herbie Hancock et le contrebassiste Ron Carter, il participe au groupe VSOP. Mais bien sûr, Miles Davis n'est pas là, c'est Freddie Hubbard à la trompette. En concert en Californie en juillet 1977, le groupe VSOP, Freddie Hubbard, trompette, Wayne Shorter, saxophone, ténor, Herbie Hancock au piano, Ron Carter à la contrebasse et le soliste ici, le batteur Tony Williams, toujours aussi impressionnant avec cette manière de décomposer toutes les croches.
De tempo éternel, c'est un tempo rapide, mais il joue toutes les en fait noires à la Charleston.
Ce qui en a fait une marque de fabrique.
Il en a fait une marque de fabrique, il garde cette Charleston, c'est-à-dire qu'il a transposé en fait ce que faisait le batteur des années 40 à la grosse caisse, il l'a transposé au Charleston. Il a une puissance énorme, on retrouve le langage qu'il avait chez Miles et avant quelque part, mais pour moi, ça sonne un peu en force. Il y a ce côté physique, très années 80 finalement. On rentre dans les années 80, il y a cette brillance et ce côté un peu physique et technique qui moi, me séduit moins. Mais c'est magnifique, hein. Attention, c'est quand même impressionnant, quoi.
Quelques mois avant sa disparition en février 1997 du cœur, après une opération de la vésicule, il n'avait que 51 ans lorsqu'il est mort, Tony Williams. Quelques mois auparavant, il enregistrait avec Mulgrew Miller et Ira Coleman ce thème bien nommé Promethean, autrement dit Prométhéen. C'est peut-être ça qui va rester, Laurent Bataille, ce côté voleur de feu.
Encore une fois, il a été l'inspirateur jusqu'à aujourd'hui de deux générations de batteurs.
Les jeunes batteurs continuent d'écouter Tony Williams.
Ah, bien sûr. Alors après, bon, il y a plusieurs écoles. Il y a les Brian Blade qui écoutent plus l'époque avec Miles, Bill Stewart, Brian Blade, tous les jeunes batteurs actuellement. Je cite ces deux-là, mais il y en a plein. Et après, tous les jeunes qui aiment la fusion et qui écoutent, eux, Vinnie Colaiuta, Dennis Chambers, Dave Wakel, etc., vont écouter le Tony de la fin. Donc c'est très étonnant. Il a fait école dans les deux périodes quelque part de sa carrière.
On se quitte avec cet enregistrement réalisé donc en septembre 1996 au Japon, Mulgrew Miller au piano, Ira Coleman à la contrebasse et bien sûr Tony Williams à la batterie. Merci beaucoup Laurent Bataille d'être venu ce matin pour évoquer la personnalité de Tony Williams dans le matin des musiciens sur France Musique. Merci à Julien Douminc, Luc Availlant et Charles Westrelin pour la prise de son. Yannick Fage m'a aidé à préparer cette émission. Christine Amado l'a réalisée comme chaque semaine. Rendez-vous mardi prochain pour un nouveau matin des musiciens. Mon invité, ce sera la chanteuse Sarah Lazarus. Nous évoquerons l'univers de Carmen McRae, une grande voix du jazz. Soyez à l'écoute à 11h mardi prochain. Demain, c'est mercredi dans le Matin des musiciens. Philippe Cassard reçoit le Quatuor Voce pour le deuxième volet d'une série de deux émissions sur le Quatuor avec piano opus 60 de Johannes Brahms. D'ici là, bien sûr, vous pouvez réécouter cette émission sur francemusique.fr. C'est le site de France Musique, vous le connaissez. Et je vous engage évidemment à vous abonner au podcast. Thank you.